Salut à toi et bienvenue sur les podcasts de Vivre avec un zèbre. C'est Lara, multipotentiologue, hypersensible, experte en déblocage cerveau-cœur. Avant de commencer, si tu veux suivre mes podcasts et puis être au courant de ceux qui vont sortir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai vaincu mon saboteur. Tu sais tout, mais ça marche pas. C'est l'histoire d'un échec programmé. Étape 1. L'étincelle. Cette fois, c'est la bonne. Je me suis introspectée jusqu'aux coutures. J'ai bien réfléchi, j'ai déposé les émotions négatives dans une boîte et je sais. Je sais ce que j'ai fait et qui n'a pas fonctionné finalement. J'ai repéré, j'ai listé tout ce que je n'aimais pas faire et je suis prête. Je me connais bien et je vais donc pouvoir agir efficacement. Je vais enfin pouvoir construire mon vrai projet de vie parce qu'il est temps et que tout le reste n'a pas marché. Et en plus, maintenant que j'ai compris que j'étais multipotentiel, c'est OK, feu vert. J'ai écrit ma liste des je n'aime pas, ma liste de souhaits et ce qui me plaît. Je vais sauver le monde, en tout cas le mien. C'est un gros résumé de l'intention sous-jacente de mon projet. Contribuer à ma mesure au bien de l'humanité. Je suis tout excitée parce que cela remue au fond. Mes alertes intuitives sont au vert aussi et me font ressentir que tout est OK. Je suis dans les starting blocks. Go! Étape 2. Du sourire aux larmes. Poupidou, je me lève tôt parce que je l'ai programmé. Aujourd'hui, c'est le jour J, le premier jour du reste de ma vie. Je suis tellement heureuse et excitée. Je sors ma to-do list et j'ouvre mon ordi pour commencer à écrire tout ce dont j'ai rêvé en boucle cette. Voyons, voyons. Je commence par quoi? Je ressors mes notes de formation et je suis le plan. Quelques heures plus tard, tous les onglets sont ouverts sur mon PC. Mon cahier de formation est surligné un peu partout. J'ai des post-it jusque sur mon front. Ma to-do list s'est transformée en un bloc de to-do où j'ai mélangé les couleurs avec les numéros. Ma tension monte, mais je vais pas lâcher quand même. Le stress s'insinue et un goût amer commence à patiner ma bouche qui en devient pâteuse. Je souffle, me calme, respire comme je l'ai appris. Je m'arrête pour méditer, mais rien ne se passe. Seul un énervement montant et une colère sourde gronde du fin fond de mon âme. Tristesse, aïe. Je touche la tristesse qui vire subrepticement au désespoir. Je regarde ma montre. 5 heures se sont passées et mon moral est plus bas que terre. Je suis en panique. C'était une fausse alerte. Que vais-je faire? Comment, surtout? Les autres y arrivent si bien et pourtant certains n'ont pas franchement la lumière à tous les étages. Oh, ma saine mère, la morale intérieure. Je les hais, je suis nulle. Cette nuit, je dors mal et je ressasse. Le lendemain, je tente de me changer les idées. Je vais me balader en rageant. Einstein. Même les oiseaux me gonflent. La balade ne m'apporte rien. Je suis vide. Même la rage m'a déserté. J'en vois les autres paître. Ils ne comprennent pas l'importance de tout ça pour moi. Je suis pas faite comme tout le monde. Ma mère avait raison. Il n'y a que toi pour croire que tu fais du bon boulot. Mais qu'est-ce que tu t'imaginais, cocotte? J'ai 5 ans. J'ai envie de pleurer. Étape 3. Le soubresaut. Je reprends du poil de la bête, je me dis qu'il me manque des connaissances. Que croyais-je donc? Qu'il suffisait de le décider pour réussir? Et pourquoi donc j'y étais pas arrivée jusqu'à aujourd'hui? Je me rebooste et me décide à demander de l'aide. Je vais appeler mon amie. Elle me comprend, elle me rassure, me remonte le moral, relativise. Je suis remontée, que j'ai été bête, je m'y remets. Étape suivante, suicide programmé. J'arrive, au bout de quelques semaines d'acharnement, à pondre un début de quelque chose. Je dois maintenant le faire savoir au monde, puisque c'est à lui que ça s'adresse. Tu sais, pour contribuer. Et là, catastrophe, je me statufie. Des maux de tête font leur apparition. J'attrape froid, je me coince le dos, je panique, mon corps crie. Fin de l'histoire. Ce n'est pas un retour à la case zéro, c'est une descente à la cave. What's the problem? Ce n'est évidemment pas une fiction, c'est mon histoire. Peut-être la tienne aussi. Elle est universellement humaine et particulièrement présente dans notre ère, en plein changement paradigmique. Oui, j'innove, je crée. Oui, nous avons tous la possibilité de décider de changer de vie et de nous lancer sans risquer notre peau. Nous n'avons pas d'urgence vitale ou de sécurité comme l'ont eu tant de générations précédentes. Nous avons de la viande et des patates tous les jours. Nous avons accès à la formation sous une seule impulsion de notre index, les fesses collées au siège. Nous avons tous la possibilité de communiquer avec le monde entier, même isolé au fond d'une grotte, pourvu qu'elle ait une connexion. Alors, what's the fucking problem? Pourquoi la volonté et la conviction profonde ne suffisent pas à nous faire changer de cap? Pourquoi, alors que toutes nos cellules nous crient la solution, nous sommes à ce stade infoutus d'y accéder? Pourquoi sommes-nous déchirés entre deux croyances aussi puissantes et ancrées l'une que l'autre? Je peux le faire versus « je n'y arriverai jamais ». Eh bien parce que nous sommes complexes, certes, mais aussi divisés, messieurs, dames. Nous nous attaquons à un monstre, un système rudement bien huilé, efficient dans son propre mécanisme de survie et de défense. Nous combattons un ennemi invisible, et il est sournois ce cochon. L'erreur classique, commune et structurelle, est de penser qu'il est à l'extérieur, et donc causé par une personne, une situation, la malchance, la conjoncture. L'erreur, tout aussi commune et structurelle, est de penser, a contrario, que c'est de notre faute. C'est un jugement intérieur non productif ni résolutoire. Dans les deux cas, nous nous plaçons en réaction contre et nous aveuglons en nous engluant dans un problème, dans un faux problème, qui peut bien vite devenir envahissant et cacher la solution. Car le problème, c'est le problème. Nous ne sommes pas le problème et il n'est jamais inéluctable. Nous nous engluons parce que nous faisons un focus sur le problème à tel point qu'il prend tout l'espace. Notre angle de vision se rétrécit jusqu'à la confusion entre soi et ce qui devient peu à peu insurmontable. En s'approchant et gardant la focale sur le problème, nous nous confondons et devenons lui. Il nous est alors quasiment impossible de nous en débarrasser, à moins d'avoir des penchants suicidaires. L'esprit est dans ses limites, le cerveau bug, le sol devient sable mouvant et nous absorbe. Le problème est un trompe-l'œil. Et malheur à ceux qui ont, structurellement aussi, un décalage systémique entre une pensée incontrôlable par sa rapidité et le reste de la famille interne qui sue à comprendre ce qui se passe, à savoir les émotions. Quand je parle de ceux qui ont un décalage, je parle bien entendu des équidés à rayures, bien illustrés, je trouve en tout cas, par le terme, en termes de désignation, de EIP, enfant intellectuellement précoce. En avance, intellectuellement, donc cognitivement, mais pas affectivement. Force est de constater que ce décalage reste à l'âge adulte. Tu ajoutes à cela bien souvent une non-connaissance et donc reconnaissance de sa propre machine et le décalage devient un gouffre. Le système s'emballe et de confrontation en confrontation, force sera de constater que le problème externe s'alourdit en écho avec le problème interne. Double effet qui se pas cool. Ouais, je l'aime celle-là. Comment qu'on fait alors? Déjà, on parle comme on veut. Ça sert à rien mais ça détend. La solution réside, et va falloir calmer les chevaux, dans la prise de distance et le recul, le changement d'angle, le pas sur le côté. Chacun peut le faire, le tester, le travailler et en faire son meilleur allié. C'est tout sauf simple, au début. À ce stade, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est la seule et unique solution pour commencer un changement en profondeur et arrêter la roue infernale. La mauvaise, c'est la seule et unique solution pour commencer un changement en profondeur et arrêter la roue infernale. Les illusionnistes joyeux ou naïfs du net, en développement personnel, même si habités des meilleures intentions du monde, ne te le vendront pas ainsi. Pas le temps. Or, c'est bien du temps dont tu as besoin pour inverser la vapeur. Arrêt sur image et observation sous tous les angles. Passons aux travaux pratiques pour connecter. Préambule, prérequis. Préparation, choisis celui qui te plaît. Tout est un choix, et pour poser ce premier choix, il est important que cela connecte intérieurement, comme le dit sagement ce petit grand maître spirituel tout vert. Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. On parle bien sûr de Maître Yoda. Si tu t'es donné cet accord, tu peux poursuivre et focusser sur ce que je te livre. Sinon, relis le début ou réécoute le début, tente de te connecter à tes ressentis et décale-toi. Ressens avant d'agir. Toujours à partir de maintenant, ordre à offrir à ton inconscient. Je te propose à présent de changer d'angle et d'utiliser pour ce faire certaines capacités que tu devrais avoir naturellement dans ta boîte à outils. Ouvre ta malle à costume et choisis donc ton enquêteur objectif et trouve-lui un petit nom, Moi, c'est Gadji. Celui qui est fin observateur, qui adore scruter, analyser, comparer les autres en général. Ok, le mien est très maladroit, mais il me fait sourire. C'est bien sûr l'inspecteur Gadget de ma jeunesse. Alors, la séparation des pouvoirs. Premier point, première étape, poser le problème tel qu'il nous apparaît. Comme il te vient, avec à l'esprit la décision interne d'être honnête avec toi et de jouer le jeu. Important, fais l'exo par écrit, sinon tu vas te mettre à pleurer dès la troisième phrase. Ne brûle pas les étapes, même et surtout si cela te paraît trop lent ou que tu as l'impression d'avoir déjà fait cela. Je poursuis mon histoire à moi, mais ceci est un exemple, tu l'auras compris. Ça marche avec tous les problèmes de la Terre, relationnels, personnels, moraux, spirituels, etc. Donc je reprends mon exemple, j'ai envie de créer mon projet, j'en peux plus du système dans lequel j'ai évolué, je veux être libre et contribuer à ma mesure au monde qui m'entoure. Mais, là est le problème, je ne sais pas par où commencer et surtout, qui suis-je pour m'autoproclamer? Par où commencer? Ai-je les compétences? Comment gagner ma vie? Pour faire quoi exactement? Sous quelle forme? Le stress monte. J'ai déjà essayé. Que vont penser les autres? Comment puis-je aider alors que je n'arrive pas à m'aider moi-même? Et puis je risque d'abandonner. Comme d'hab. Je vais m'ennuyer de faire toujours la même chose. Je n'arrive pas à choisir. Quel ton utiliser? Je suis nulle. Je vais aller me pendre. Deuxième étape, analyse froide. Tu relis ce que tu as écrit et tu te détaches des ressentis. Premier point, ce qui est. Pour ma part, c'est je désire créer mon projet. Envie de contribution, qui est plutôt positif. Deuxième point, les freins. Les freins chez moi, dans ce que je viens de donner, ben c'est la peur, plutôt négatif. Troisième point, le problème, c'est la confrontation entre ce qui me pousse, positif, et ce qui me freine, négatif. Quatrième point, mon frustromètre. Sur une échelle de 0 à 10, parce qu'il faut bien savoir d'où on part, ben moi je suis à 11, à peu près. Troisième étape, affiner les freins. Quelles sont les peurs soulevées, ou d'autres émotions négatives? Et quelle est la peur dominante? N'invente pas dans cet exercice, relis juste ta phrase et analyse froidement. Pour ma part, j'ai pu soulever peur du jugement des autres, peur de l'échec, de l'abandon, de l'ennui. La peur dominante, ne pas y arriver. L'échec donc. Quatrième étape, écris noir sur blanc ce que tu veux et ce qui te freine. Moi, ça donne, j'ai vraiment envie de contribuer, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Cinquième étape, écris-le sous forme de demande positive et ajoute-y ce que cela te ferait ressentir. Pour ma part, c'est j'aimerais mettre mon projet en place pour contribuer. Cela me rendrait heureuse, joyeuse, enthousiaste, épanouie, énergique, pleinement satisfaite. Sixième étape, écris-le au présent. Ça donne je veux mettre mon projet en place pour contribuer. Septième étape, avec conviction, maintenant, tu passes à l'action mentale. Je mets mon projet en place pour contribuer. 8. Relis le point 7, respire et fais un point sur ton frustromètre avec cette énergie-là. Je relis, je mets mon projet en place pour contribuer. Mon frustromètre, j'aurais pas dû utiliser ce mot-là, il passe à 5 pour ma part. On s'arrête là pour le moment. Par contre, entre nous, je t'encourage vraiment à faire cet exercice, donc tu peux réécouter, parce que sinon, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. C'est un petit peu le sujet de mon article. Alors, que s'est-il passé? Tu démarres d'un engluement de ressenti, mélange de frein et d'envie. Donc, tu n'es plus ou pas ou plus dans la capacité de faire la part des choses. Tu étais devenu le problème. En te posant ces questions, apparemment simplissimes, tu as peut-être même levé le sourcil en te disant mais c'est con, je sais tout ça. Tu viens juste de faire l'expérience du recul. En te posant les questions, tu détaches automatiquement le répondeur du questionneur. Et tu réussis dès lors à voir avec plus de clarté. Tu es passé en mode séquentiel et tu as, sans le savoir, réussi à focusser. Tu as arrêté la roue libre pour une analyse plus pragmatique, nécessaire à tout projet de changement. C'est l'action de poser tes problèmes sur la table et de les observer sans rien modifier qui te permet, sans t'arracher les cheveux, de prendre de la distance. C'est ce que je fais lorsque j'enfile mon costume de thérapeute. Mon cheminant, donc le patient, ouvre son sac et déballe son slime. C'est pas une insulte, hein. Je sais pas si t'as connu le slime, espèce de pâte verte molle. Donc, il déballe son slime. Moment important. Sans action, ni interprétation, ni recherche de solution ou autre. Juste l'expression et le ressenti. De ce slime, ensuite, je lui pose de simples questions ouvertes d'inspecteur et lui permets de s'exprimer, c'est-à-dire sortir de sa tête ce qui y est, et ce faisant, la distance commence. Le problème est sur la table, entre nous, et nous allons commencer à tourner autour comme des boxeurs pour voir comment il se transforme naturellement, rien que par le fait de son changement de place, de l'intérieur à l'extérieur de la boîte. Ensuite, nous observons ensemble ce qui se passe et travaillons alors avec ce qui se crée. Si, à ce stade, nous cherchons les causes, ce qu'il m'arrive par habitude ou par réflexe, mais je me soigne, nous redonnons pouvoir au slime et risquons de nous faire ensuquer. Les causes n'ont aucun intérêt. Pourquoi? Simplement parce que le passé est passé, je développerai plus tard. Et si je pousse à changer, si je le pousse à changer à ce stade, sais-tu ce qui va se produire? Il va, inconsciemment, produire la seule force contraire naturellement présente chez tous les êtres humains, le freinage intempestif. Et tu sais qui est le roi du freinage? Mister Auto-Saboteur himself. Le saboteur est un fou de la pédale. De frein, bien sûr. Eh oui, cher multipote, c'est pour ça que c'est vicieux. Si tu ne respectes pas tes forces intérieures de frein, des forces naturelles, tu ouvres en grand la porte à ton méchant pote El Sabotor. Un conseil, donne-lui aussi un petit nom. Le mien s'appelle Vador. Pourquoi nommer? Même processus qu'avec le problème. Cela nous permet de nous désidentifier. Le saboteur devient un personnage extérieur. Last but not least. Volontairement freiné, tu feras et du saboteur te préservera. Maître Yoda. Nous faisons pour terminer ce long article un petit détour du côté de la systémique et son école, Palo Alto, pour piger un peu de quel bois il se chauffe cet ennemi intime, tant qu'à y être. Nous, êtres humains complexes, sommes montés sur un système d'équilibre interne auto-régulé qui fonctionne avec une bien bonne intention de départ qui s'appelle l'homéostasie. Quand j'ai chaud, je transpire. Quand j'ai froid, je grelotte. Jusque-là, tout va bien. C'est après que ça se gâte. Nous avançons bizarrement, nous autres les hommes, un peu comme la marche élégante du caméléon. 3 pas en avant, 2 en arrière. Si tu ne me crois pas, visualise l'enfant lorsqu'il passe à la marche. Il marche tout le temps et d'un seul coup? Non, il a des périodes de régression. Lorsque nous poussons sur l'accélérateur, le frein s'enclenche en même temps. C'est la fameuse résistance. La prendre en compte est la meilleure manière de se donner toutes les chances de réussite vers un changement, quel qu'il soit. Donc, pour boucler la boucle, lorsque tu te décides, bille en tête, de vouloir sauver le monde, qui est l'accélérateur, n'oublie pas de respecter tes freins, sous peine de réagir de la mauvaise façon, en appuyant comme un damné sur le champignon. D'une part, tu n'avanceras pas plus vite, tu utiliseras une énergie folle et des gouttes de sueur, et de l'autre, tu ouvres grand la porte au saboteur pour lui laisser, à loisir, appuyer sur les freins pour arrêter ton bolide. Cela nous concerne évidemment encore plus en tant que multipotentiel. Notre enthousiasme et capacité de travail, lorsque nous sommes habités par une pulsion puissante qui fait sens pour nous, nous permettent de déployer une énergie considérable, non? Imagine maintenant pouvoir utiliser cette capacité, ce potentiel énergétique, de manière beaucoup plus efficiente pour toi. Il va donc te falloir mesurer et prendre en considération cette force de frein de manière consciente. Je te donne un exemple concret. Tu prévois de pondre un article de plus de 3332 mots sur ton thème favori. Tu fais ton plan, tu es prêt à te lancer. Là, tu t'arrêtes et tu divises la tâche choisie en 2, voire plus. Ce n'est pas de la procrastination, c'est une stratégie qui respecte ta force de frein. Autre exemple, tu décides de perdre 15 kilos, non, je sais pas de quoi je parle. Au lieu de te plonger dans une diète drastique, tu décides de commencer par ne plus en prendre de poids, en toute conscience. Tu commences donc par un tout petit changement qui va t'amener à le réussir facilement. Ce qui aura cette fois 2 effets qui se très cool. 1. Ta force de frein est respectée. Donc, pas de Vador ou de ton saboteur comme copilote. 2. Ta confiance en toi remonte puisque ton cerveau a enregistré une réussite. Est-ce clair? Ou alors, il n'y a plus personne qui m'écoute. Bon, résumons pour nous rassembler. Toute volonté de changement projectif ou résolutif commence par un état des lieux et une première acceptation, celle de déverser son slime et d'observer. Accepter de repérer sans modifier. Laisser le ou les problèmes surgir et prendre concrètement du recul. Pour ce faire, n'oublie pas ton costume d'inspecteur. Ne pas chercher de solution trop vite parce que la vitesse te joue des tours. Laisser mariner et continuer à bouger à petits pas comme le boxeur autour de son adversaire pour le jauger. Faire confiance à ses ressentis à toutes les étapes. Enfin, lorsque la tempête s'est calmée, tu peux prendre des décisions tout en les réduisant drastiquement pour atteindre tous tes mini-objectifs. Si échec, tu recommences à réduire. C'est que tu as été encore trop gourmand. À chaque mini-objectif atteint, danse de la joie avec cri de guerre gutturale. N'oublie pas que c'est très probablement nouveau pour toi, donc prends le temps pour observer les mouvements intérieurs. En d'autres termes, sois indulgent avec toi. Voilà, je t'avais dit que ce sujet m'interpellait, m'intéressait et j'en avais fait mon expertise. J'espère que cela t'a amené de la valeur. Donc n'hésite pas surtout à faire ces exercices parce que très franchement, je les utilise en thérapie tout le temps. Donc n'hésite pas. Je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Si tu veux lire l'article pour prendre un peu plus de temps pour ce contenu un peu volumineux du podcast présent, va sur le site Vivre avec un zèbre et je te laisse le lien en dessous. À très bientôt. Ciao.